VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 18h30 temps universel. On est mardi 20 février 2018 au sommaire. Libération de 17 prisonniers en RDC dans le cadre de l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Au Togo également, 45 personnes qui avaient été arrêtées lors des manifestations anti-gouvernementales ont été libérées après le début du dialogue politique.
Le gouvernement a essayé de libérer certains et les autres ne sont pas encore libérés. Mais la procédure commence, le processus continue.
Au Nigeria, Nnamdi Kanu, chef du mouvement indépendantiste du Biafra, toujours introuvable alors que son procès devait reprendre aujourd'hui. En Syrie, au moins 45 personnes ont été tuées aujourd'hui dans la Ghouta orientale par les bombardements des forces gouvernementales. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. C'est un pas décisif vers la décrispation politique en RDC. 17 prisonniers ont été libérés ce mardi dans le cadre de l'accord politique du 31 décembre 2016, mais deux opposants, pourtant annoncés sur cette liste, n'ont pas été libérés. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La libération de Diomaye Muyambo n'a jamais été d'actualité. Ces deux cas ne sont pas à l'ordre du jour pour une libération, nous a dit le ministre d'État à la Justice, Alexis Thambwe Mwamba. Depuis le week-end dernier, pourtant, la mise en liberté de ces deux acteurs politiques de l'opposition était annoncée avec insistance, confirmée même par certains députés nationaux. Sur les antennes de Top Congo FM lundi soir, Patricia Diomi, l'épouse de Diomi Ndongala, a même donné son mari libre à 99%. Il n'en est donc rien. Une délégation du rassemblement de l'opposition conduite par le député Délice Essanga a même fait ce mardi le déplacement de la prison centrale de Makala pour assister à la libération de Diomi et Muyambo. Sans obtenir plus d'explications, elle s'est contentée de constater que ses opposants sont restés en prison. Les cas Diomi, condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineur, et Muyambo, condamné à 5 ans dans l'affaire d'un conflit immobilier, font partie des cas dits emblématiques évoqués dans l'accord du 31 décembre 2016. Une commission mise en place alors, chapeautée par le ministre de la Justice, était censée examiner au cas par cas la possibilité de libération ou de retour en exil de certains acteurs politiques, parmi lesquels Moïse Katumbi. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'ONG Greenpeace et d'autres défenseurs de l'environnement ont déploré la réattribution de 3 concessions forestières à des firmes chinoises par les autorités de la RDC, malgré un moratoire en vigueur depuis 2002. Dans un communiqué, ces ONG congolaises et internationales ont indiqué que le ministre de l'Environnement de la RDC a rétabli environ 650 000 hectares de concessions forestières illégales qui avaient été annulées en août 2016. Le dialogue politique au Togo entre le pouvoir et l'opposition a connu ses premières avancées. Le premier jour des débats a permis la libération de 45 personnes arrêtées pendant les manifestations. On fait le point avec Eric Manevakiza.
C'est l'une des mesures d'apaisement qu'exigeait l'opposition. Le président Fornia Simbe a accordé une grâce présidentielle à 45 des 92 personnes détenues dans les prisons du pays. Le porte-parole de la délégation ghanéenne, Daniel Ossi, a indiqué que la justice togolaise examinera la situation des autres détenus cas par cas. Le parti au pouvoir et l'opposition ont aussi accepté de suspendre les manifestations jusqu'à la fin du dialogue. L'opposition exige aussi la libération des personnes poursuivies dans le cadre des incendies d'Okara et Lomé et le retour des forces de sécurité dans les casernes dans le nord du pays. Le retour à la constitution de 1992 reste la principale revendication de l'opposition. Cette question sera examinée après satisfaction des mesures d'apaisement. Ces travaux ouverts hier ont été suspendus jusqu'à vendredi. Ce dialogue doit durer une dizaine de jours et devrait également aborder la transition politique et les réformes électorales.
Le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est dit déterminé à panser les plaies du massacre de Marikana. C'était en 2012. La police avait tué 34 employés d'une mine appartenant à la société Lonmine dont il était un administrateur. Cyril Ramaphosa avait été soupçonné d'avoir fait pression pour que la police casse la grève. Il a été blanchi par une commission d'enquête. Au Mozambique, les négociations de paix se poursuivent entre le président Filipe Nyusi et le chef de l'ancienne rébellion de la RENAMO, Alfonso de la Cama. Le chef de l'État s'est rendu dans les montagnes de Gorongasa, dans le centre du pays, où est retranché Alfonso de la Cama depuis octobre 2015. Et puis au Nigeria, Nnamdi Kanu, chef du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, a été absent au tribunal d'Abuja. Son procès pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État devait pourtant reprendre aujourd'hui. Yakuba Wetraogo.
Ifeanyi Idjoufo, avocat de Nnamdi Kanu, a affirmé que son client se trouve toujours entre les mains des autorités, mais le tribunal a balayé ses allégations faute de preuves. Trois autres inculpés étaient présents. La cour a ordonné que le leader indépendantiste, devant comparaître avec eux, soit jugé séparément pour ne pas entraver leur procès. Le leader indépendantiste pro-Biafra a disparu le 14 septembre lorsque sa maison a été attaquée. Sa famille et son avocat accusent les militaires de le garder au secret. L'armée a démenti ces accusations. Avant le début de son procès, mi-octobre, Nnamdi Kanu a passé un an et demi en détention. Il a été remis en liberté sous caution en avril dernier. Les trois personnes qui ont garanti sa remise en liberté provisoire sont convoquées le 28 mars pour s'expliquer. Le chef indépendantiste avait été incarcéré en octobre 2015 après des violences entre ses partisans et les forces de l'ordre. Il avait appelé à la tenue d'un référendum de autodétermination.
Au Zimbabwe, le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai est décédé la semaine dernière, a été enterré ce mardi dans son village de Buera, dans l'est du pays, en présence de milliers de partisans, de diplomates et de responsables politiques. Morgan Tsvangirai, ancien syndicaliste reconverti à la politique, a combattu pendant plusieurs décennies le président Mugabe, qui a démissionné en novembre dernier.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil d'État français a refusé de suspendre une circulaire très controversée organisant un recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. La plus haute juridiction administrative en France déboute ainsi une trentaine d'associations qui dénonçaient la pratique. Cette circulaire, signée par le ministre de l'Intérieur, a suscité un vif émoi au sein de la gauche française et chez des intellectuels. Un projet de loi sur l'asile et l'immigration, lui aussi très critiqué, sera présenté demain en Conseil des ministres en France. Les autorités espagnoles ont annoncé l'arrestation dans le sud de la France de trois personnes ayant des liens avec Driss Oukabir, membre présumé de la cellule qui avait commis en août 2017 les attentats de Barcelone et Cambrils. Ces trois personnes ont été arrêtées lors d'une opération menée conjointement avec la police française. Les deux attentats avaient fait 16 morts. En Syrie, au moins 45 personnes ont été tuées aujourd'hui dans la Ghouta orientale par les bombardements des forces gouvernementales, ce qui porte à près de 200 civils tués, dont près de 60 enfants depuis dimanche, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Jacques Aristide.
L'ONU a appelé à mettre fin à cette souffrance insensée et réclame l'instauration d'un cessez-le-feu, estimant que la situation échappe à tout contrôle. Environ 400 000 personnes sont assiégées dans la Ghouta orientale, région proche de Damas, vers laquelle l'acheminement d'aides humanitaires devient de plus en plus difficile. D'après le quotidien syrien Al-Watan, proche du régime, ces violents bombardements sont le prélude à une attaque terrestre contre le dernier fief des rebelles opposés au président Bachar al-Assad. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, a manifesté sa colère aujourd'hui par un communiqué d'une seule phrase de son directeur régional. Aucun mot ne rendra justice aux enfants tués, à leur mère, leur père et à ceux qui leur sont chers. Suivent ensuite 10 lignes vides entourées de guillemets. L'opposition syrienne en exil a dénoncé une guerre d'extermination et le silence international face aux crimes du pouvoir Assad dans la guerre qui ravage la Syrie depuis près de 7 ans.
Le chef de l'État libanais Michel Aoun est arrivé à Bagdad pour une visite de 24 heures. La première dans l'histoire des deux pays, Michel Aoun a félicité le peuple irakien pour sa fermeté, sa patience et la force de sa détermination face à l'adversité, les conditions terribles qu'il a endurées, notamment face au terrorisme. Il a également fait part des menaces israéliennes contre le Liban. Le Comité international de la Croix-Rouge appelle les parties en conflit au Yémen à protéger et à respecter la ville historique de Zabid, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville, qui compte une multitude de rues étroites et quelques 86 mosquées, a été la capitale du Yémen entre le XIIIe et le XVe siècle. Zabid est située sur la plaine côtière occidentale du Yémen, dans une région où les combats entre forces pro-gouvernementales et rebelles houthis se sont intensifiés ces derniers jours. Au Venezuela, un dirigeant de l'opposition a appelé la communauté internationale à user de son droit d'ingérence pour aider la population qui vit un martyr, selon lui. Selon Antonio Lezenma, les trafiquants de drogue sont au pouvoir, donc une intervention humanitaire est justifiée. Le Venezuela a connu l'an dernier des manifestations sanglantes pour réclamer le départ du président Maduro, accusé d'avoir plongé le pays dans une grave crise sociale et économique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on retrouve Eric Manirakiza qui nous présente ce soir la Minute Éco.
La Banque africaine d'import-export injecte 1,5 milliard de dollars dans l'économie mauritanienne. Deux tiers de ce financement serviront aux infrastructures énergétiques, aux parcs industriels et aux ports de pêche pour stimuler les exportations. Les banques commerciales du pays bénéficieront d'une ligne de crédit de 500 millions de dollars. Le Rwanda reste déterminé à interdire l'importation de vêtements de seconde main en provenance des États-Unis. Kigali affirme que les nombreuses pressions de Washington ne vont rien changer. En 2015, la communauté est-africaine a banni l'approvisionnement en vêtements et de chaussures à bas prix. Washington a menacé de suspendre le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie de la GOA, qui exonère les droits de douane sur le marché américain. Kigali veut promouvoir le « made in Rwanda » et combler le déficit commercial en réduisant les importations de biens manufacturiers à 33 millions de dollars d'ici 2019. En 2015, Kigali a dépensé 124 millions de dollars. Le développement des filières textiles, habillement et cuir permettrait à créer plus de 25 000 emplois. La diaspora kényane a envoyé au pays près de 2 milliards de dollars en 2017. Ce chiffre représente une hausse de plus de 13%. Les premiers pourvoyeurs de ces fonds sont les Kenyans d'Amérique du Nord.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, à Stamford Bridge, Chelsea accueille le FC Barcelone pour le choc de la soirée. Toute l'Europe du football se souvient de cette demi-finale retour en 2009 à Londres, où Iniesta, d'une frappe limpide, avait permis à son équipe de se qualifier pour la finale. Et trois ans plus tard, toujours en demi-finale, la revanche avait souri à Chelsea, qu'il avait emporté en 2012. Ce sera donc la belle, à partir de ce soir, la troisième confrontation entre les deux équipes. À noter l'autre match de ce mardi, le Beşiktaş d'Istanbul, qui se déplace à l'Allianz Arena en outsider face au Bayern de Munich.
À suivre demain les deux derniers huitièmes de finale.
Le Shakhtar Donetsk face à l'AS Rome. A noter que les Italiens sont troisièmes de leur championnat. Ils comptent 16 points de retard sur le leader Naples et 15 sur le deuxième, la Juventus Turin. L'autre match, ce sera le FC Séville contre Manchester City. Soit une confrontation entre le tenant du titre de l'Europa League et la formation qui a remporté la petite Coupe d'Europe les trois saisons précédentes.
Zidane qui veut rester au Real.
Et j'ai envie de rester le plus longtemps possible. Zinedine Zidane, sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2020, a coupé court ce mardi aux rumeurs d'un départ en fin de saison, reconnaissant pourtant l'usure de son poste.
Et on termine par les Jeux Olympiques d'hiver 2018.
La Norvège toujours en tête devant l'Allemagne et le Canada au classement des médailles. Norvégiens et Allemands comptent 11 médailles d'or chacun. Les États-Unis ont su augmenter leur niveau de jeu quand il le fallait. Guère convaincant en phase de poule, ils ont réussi à battre la nuit dernière la Slovaquie en barrage, 5-1 pour se qualifier en quart de finale de ce tournoi messieurs de hockey sur glace de ces Jeux Olympiques.
Merci Nicolas.
We'll be right back. le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Au Burundi, 3 600 000 personnes ont besoin d'assistance humanitaire. 2 400 000 sont en situation de vulnérabilité aiguë. Ces chiffres ont été donnés hier lors du lancement du plan officiel des réponses humanitaires entre le gouvernement et l'Office de coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kourounziza.
Hier soir, je n'ai pas mangé. Même ce matin, je n'ai rien eu à mettre sous la dent. Maman a préparé le soir, elle ne m'a pas donné à manger, car elle croyait que nous partageons à manger normalement à l'école. Maman ne sait pas que la nourriture que l'on nous donne est insuffisante pour deux personnes.
Le témoignage de cet élève qui étudie en deuxième primaire est poignant. Il illustre la situation des milliers de familles de la commune de Rugombo, en province de Rubanza, au nord-ouest du Burundi, qui ne mangent pas suffisamment leur faim. Comme les plus de 3 600 000 Burundais papillés à travers 11 des 18 provinces du Burundi qui sont en besoin d'assistance humanitaire selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Des milliers de personnes sont prioritairement ciblées, comme l'indique le secrétaire permanent du ministère des Relations extérieures, Jean de Dieu Ndikoumana.
Inclusif et multisectoriel, le plan de réponse humanitaire répond aux besoins urgents des populations burundaises les plus vulnérables. Nous devons veiller à axer nos efforts auprès des 188 300 déplacés, 410 000 réfugiés, 57 400 retournés et 75 700 rapatriés pour encourager les retours et leur intégration durable. Le plan de réponse humanitaire entend également apporter une réponse d'urgence aux réfugiés. Près de 8 000 Congolais ont traversé la frontière du Burundi depuis le mois de janvier 2018.
Madame Salima Mokrani, chef de bureau d'intérim de l'Office de coordination des affaires humanitaires, estime que le nombre de personnes en besoin humanitaire a augmenté d'année en année au Burundi.
L'augmentation des chiffres ne veut pas dire que 2017 n'a pas couvert des besoins, bien entendu. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est difficile et que les vulnérabilités se sont aggravées. Il y a plus de personnes vulnérables et il n'y a pas eu plus de moyens d'y répondre. Donc c'est pour ça que l'enveloppe financière pour 2018 est plus importante.
Pour le coordonnateur résident des Nations Unies au Burundi, les agences des Nations Unies doivent distinguer l'humanitaire du développement, Gary Conil.
Il n'est plus acceptable pour nous de définir le succès en matière humanitaire par tout simplement le nombre d'individus qui ont reçu de l'assistance alimentaire ou qui ont reçu tel type d'appui. Le succès en matière humanitaire doit se définir comme étant le nombre d'individus qui, s'ils font face au même choc l'année prochaine, le nombre d'individus qui seront affectés par ce choc va diminuer. Ça nécessite la participation et l'implication de tous. Avant, la section développement était complètement séparée de la section humanitaire. Aujourd'hui, on sait que ça ne peut plus se concevoir comme ça.
Il est à remarquer que la compilation des données montre bel et bien que le nord et le nord-est du Burundi demeurent très vulnérables dans quasiment tous les secteurs, ainsi que des régions de l'ouest du pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Le dialogue politique au Togo a connu une première avancée dès la première journée avec la libération de 45 personnes arrêtées lors des manifestations. Les discussions à huis clos en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur dans la crise, ont été dominées par les mesures d'apaisement. Nathalie Barge a joint à Lomé le professeur Prince Bedi, vice-président de l'Association intercontinentale de stratégie de développement et d'observation politique.
Chaque parti a commencé à mettre sur le terrain les exigences. Et les partis de l'opposition ont demandé à ce que les mesures d'apaisement interviennent, c'est-à-dire qu'on libère certains opposants politiques, certains manifestants. Et je crois que le gouvernement a essayé de libérer certains et les autres ne sont pas encore libérés. Mais la procédure commence, le processus continue. Mais du côté du pouvoir, mais eux aussi, ils ont demandé à ce qu'il y a eu les pertes des armes au niveau du Sokolé. Et ils ont demandé à ce que ces armes-là soient retrouvées avant de continuer. Mais je crois qu'ils se sont entendus.
Alors qu'en est-il des réformes électorales? Est-ce que l'on en sait un petit peu par rapport à cela ou est-ce que c'est encore trop tôt?
Bon, pour les réformes, c'est encore très tôt parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans le vif des sujets. Mais ce qui est certain, les deux parties s'accordent pour aller vers les réformes. Maintenant, c'est le contenu qui va nous permettre de savoir quelle est la position des uns et des autres.
Alors, la Constitution de 1992, est-ce que l'on s'achemine vers une limitation des mandats présidentiels à deux?
Ça, c'est déjà acquis dans même la déclaration du président de la République, Faure Sozinan Yasimbe. Il avait déjà dit que prochainement, le mandat du président de la République doit respecter cette ligne-là à deux. Mais question est de savoir si ça doit se faire. C'est cette réforme-là qui va nous donner la confirmation. Si la loi de 92 arrive, si on doit appliquer les conséquences, est-ce que l'actuel président est automatiquement disqualifié pour les élections de 2020? Pour le moment, c'est le point d'interrogation. Nous sommes là et on est à l'écoute.
Est-ce que l'on peut imaginer une sorte de bras de fer entre les deux parties et que finalement chacun reste sur ses positions?
Il y aura certainement de bras de fer, surtout pour ce qui concerne la rétroactivité de la loi. Nous allons voir à quel niveau chaque partie va commencer par douter.
L'opposition a demandé notamment à ce que l'on retire les forces de sécurité dans le nord du pays. Est-ce que ce sont des mesures envisageables?
Oui, sinon en réalité, nous ne sommes pas dans un état militaire, mais les discussions sont en bonne voie et le pouvoir va naturellement donner une réponse positive à cette demande de l'opposition.
C'était le professeur Prince Bedi, joint à Lomé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Traditionnellement, les écoles secondaires en Afrique mettent l'accent sur les matières académiques comme les mathématiques et la grammaire, mais une nouvelle tendance se dessine. Les écoles intègrent de plus en plus des programmes d'enseignement de compétences qui doivent aider les élèves à réussir sur le marché du travail et dans la vie. Reportage au Rwanda et au Sénégal de Chika Odua, récit Claire Morin-Jubourg.
Ces lycéens ne sont pas en classe, mais de l'autre côté de la rue de leur lycée. Ils demandent aux vendeurs les qualités qu'il faut pour être embauchés. Dans quelques mois, ils vont essayer de rejoindre le marché du travail.
Pour un entretien d'embauche, je dois d'abord me présenter. Je dois dire mon nom, mon âge, mon niveau d'éducation et toutes mes expériences. Aussi, je dois être bien habillé.
De retour sur le campus, les étudiants simulent des entretiens d'embauche. Pour beaucoup, c'est leur classe préférée. Tout est question de compétences pour obtenir un travail. Les enseignants préparent les élèves à mieux communiquer, à résoudre des problèmes et à se sentir citoyens du monde. Avec le soutien d'une organisation spécialisée basée aux États-Unis, le Rwanda a intégré ce programme de préparation à l'embauche dans toutes les écoles secondaires. L'objectif est de faire baisser les chiffres du chômage. L'ONG rwandaise Akazi Kanose, qui signifie « travail bien fait » en Kinyarwanda, a été chargée de réaliser ce programme. Emmanuel Nangungira est formateur pour Akazi Kanose.
Les étudiants doivent travailler en groupe de 4 ou 5. Nous leur donnons des rôles pour qu'ils interagissent. Nous leur donnons différents scénarios qu'ils doivent présenter. Ainsi, ils acquièrent des compétences en communication.
C'est un programme novateur qui exige des enseignants qu'ils soient plus engagés dans la salle de classe. Au Sénégal, le CEM de Thiès-Nonne est l'une des 250 écoles sélectionnées pour participer à ce programme. Aujourd'hui, les étudiants discutent de valeurs comme l'honnêteté et le partage. Sokhna Mbaye est la directrice de ce collège.
Les écoles sénégalaises ont échoué quelque part parce que nous savons ce qu'est la géographie. Nous savons ce que sont les mathématiques. Mais jusqu'ici, nous n'avions pas vraiment de compétences pour faire face à la vie et pour faire nos propres choix. C'est ce que nous avons manqué.
Dans un lycée voisin, les étudiants se sont enthousiasmés pour une autre nouvelle classe, un apprentissage à la finance. Cette classe est un véritable investissement pour un avenir meilleur.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'énième fusillade à l'école qui a relancé le sempiternel débat sur les armes à feu aux États-Unis. Des élèves survivants mobilisent la rue. Le président Donald Trump se dit pour un renforcement des contrôles. Le drame de Floride est-il le drame de trop? La tragédie aura-t-elle un quelconque impact sur le culte des armes dans le pays? Pourra-t-elle briser la mainmise de la NRA, le puissant lobby pro-armes sur le monde politique américain? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Le Congrès américain discute du financement d'un mur à la frontière avec le Mexique, mais une barrière existe déjà entre El Paso au Texas et la ville mexicaine de Juarez. Terminée en 2010 sous l'administration Obama, elle rend plus difficile l'arrivée de clandestins. Mais lorsque Jesus Sanchez était venu aux États-Unis il y a une trentaine d'années, il suffisait seulement de traverser le fleuve Rio Grande depuis ce père de famille vit sans papier aux États-Unis. Un reportage de Mehmet Soumer rendu par Lionel Gaïma.
El Paso, au Texas, est le second point d'entrée aux États-Unis le long de la frontière américano-mexicaine. Même si l'essentiel du trafic quotidien est constitué des travailleurs réguliers qui font la navette, il y a aussi une autre vague sortie de l'ombre pour entrer illégalement dans la ville. Jesus Sanchez est venu jeune et l'a traversé avec ses parents le fleuve Rio Grande qui forme la frontière naturelle.
We walked that day, the river wasn't very high.
Nous avons marché. Ce jour-là, le niveau du fleuve n'était pas élevé. L'eau arrivait à la hauteur de nos genoux. Après cela, il fallait surveiller les patrouilles des gardes frontières. S'ils n'étaient pas là, il fallait juste courir ou marcher. Je ne me souviens pas d'avoir couru. Il faisait sombre. C'était entre 3h30 et 4h du matin.
Depuis, malgré ses 30 ans de vie aux États-Unis, Sanchez n'a toujours pas de statut légal. Mais ses enfants nés sur le sol américain sont des citoyens à part entière. L'un est devenu biochimiste et c'est avec un sourire que Sanchez parle de son autre enfant.
Il est en train de postuler à plusieurs boulots et vous imaginez qu'est-ce qu'il veut devenir? Un garde frontière.
Sanchez a eu plusieurs visas de courte durée, mais est sans papier depuis 2010. Maintenant, son fils aîné l'a parrainé et il attend d'obtenir sa carte verte le mois prochain.
My life is here now.
Ma vie est ici maintenant. Tout ce que je suis devenu, c'est grâce aux États-Unis. Je suis très reconnaissant, mais j'aimerais vivre ici légalement.
Maintenant, venir à El Paso est devenu beaucoup plus difficile qu'à l'époque où Sanchez avait fait la traversée à pied. Une barrière longue de 211 km a été terminée en 2010. En 2006, avant sa construction, il y avait eu quelques 122 000 entrées illégales, un nombre tombé à quelques 25 000 l'année dernière.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est sur ce son de Sultan Zembella qu'on se quitte. Merci à Georges Léonard Sagno qui a mis en onde cette édition. À la console, il y avait Bill Barbe, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24.